Malheur à nous si cette tendance se mettait à faire rage. En admettant que la tendance au dévouement et à la sollicitude pour les autres, l'affection sympathique, soit doublement plus forte qu'elle ne l'est, le séjour sur la terre deviendrait intolérable. Que l'on songe seulement aux sottises que commet chacun, tous les jours et à toute heure, par dévouement et par sollicitude pour lui-même, et combien son aspect est insupportable. Que serait-ce si nous devenions pour les autres l'objet de ces folies et de ces importunités dont jusqu'à présent ils se sont seulement frappés eux-mêmes. Ne faudrait-il pas alors prendre aveuglément la fuite dès qu'un prochain s'approche de nous, et accabler l'affection sympathique des mêmes paroles injurieuses dont nous couvrons maintenant l'égoïsme? Nous abstraire de la misère des autres. Si nous nous laissons assombrir par la misère et les souffrances des autres mortels, et si nous couvrons de nuages notre propre ciel, qui donc portera les conséquences d'un tel assombrissement? Certainement les autres mortels, et ce sera un poids à ajouter à leurs autres charges. Nous ne pouvons être pour eux ni secourables ni réconfortants si nous voulons être l'écho de leur misère, et aussi si nous voulons sans cesse prêter l'oreille à cette misère. À moins que nous n'apprenions l'art des Olympiens, et que nous ne cherchions dorénavant à nous édifier du malheur des hommes au lieu d'en être malheureux. Mais pour nous, cela est un peu trop à la façon de l'Olympe, quoique par la jouissance de la tragédie, nous ayons déjà fait un pas en avant vers ce cannibalisme idéal des dieux. Non égoïste. Celui-ci est vide et voudrait être plein, et celui-là est comblé et voudrait se vider. Tous deux se sentent poussés à se chercher un individu qui puisse les aider à cela. Et ce phénomène, interprété dans un sens supérieur, porte dans les deux cas le même nom, amour. Comment ? L'amour serait-il quelque chose de non égoïste ? Regardez au-delà du prochain. Comment l'essence de ce qui est véritablement moral consisterait pour nous à envisager les conséquences prochaines et immédiates que peuvent avoir nos actions pour les autres et à nous décider d'après ces conséquences? Ceci n'est qu'une morale étroite et bourgeoise, bien que cela soit encore une morale. Mais il me semble que ce serait d'une pensée supérieure et plus subtile de regarder au-delà de ces conséquences immédiates pour le prochain, afin d'encourager des desseins plus lointains au risque de faire souffrir les autres. Par exemple, d'encourager la connaissance, malgré la certitude que notre liberté d'esprit commencera d'abord par jeter les autres dans le doute, le chagrin et quelque chose de pire encore. N'avons-nous pas le droit de traiter notre prochain au moins de la même façon dont nous nous traitons nous-mêmes? Et si nous ne pensons pas pour nous-mêmes, d'une façon aussi étroite et bourgeoise, aux conséquences et aux souffrances immédiates, pourquoi serions-nous forcés d'agir ainsi pour notre prochain? En admettant que nous ayons pour nous-mêmes le sens du sacrifice, qu'est-ce qui nous interdirait de sacrifier le prochain avec nous? Comme firent jusqu'à présent l'État et les souverains en sacrifiant un citoyen aux autres citoyens, pour l'intérêt général, comme l'on disait. Mais nous aussi, nous avons des intérêts généraux et peut-être source des intérêts plus généraux encore. Pourquoi n'aurait-on pas le droit de sacrifier quelque individu de la génération actuelle en faveur des générations futures? En sorte que leurs peines, leurs inquiétudes, leurs désespoirs, leurs méprises et leurs hésitations fussent jugés nécessaires parce qu'un nouveau socle de charrue doit fouiller le sol et le rendre fécond pour tous. Et finalement, nous communiquons au prochain un sentiment qui le fait se considérer comme victime. Nous le persuadons d'accepter la tâche à quoi nous l'employons. Sommes-nous donc sans pitié? Si pourtant, par-delà notre pitié, nous voulions remporter une victoire sur nous-mêmes, ne serait-ce pas là une attitude morale plus haute et plus libre que celle où l'on se sent à couvert qu'une action fasse du bien ou du mal au prochain? Car, par le sacrifice où nous sommes compris, nous, tout aussi bien que les prochains, nous fortifierions et nous élèverions le sentiment général de la puissance humaine, en admettant que nous n'atteignions pas davantage. Mais cela serait déjà une augmentation positive du bonheur, et en fin de compte, si cela était même, mais pas un mot de plus, un regard suffit, vous m'avez compris. Cause de l'altruisme. Les hommes ont en somme parlé de l'amour avec tant d'emphase et d'adoration, parce qu'ils n'en ont jamais trouvé beaucoup et qu'ils ne pouvaient jamais se rassasier de cette nourriture, c'est ainsi qu'elle finit par devenir pour eux nourriture divine. Si un poète voulait montrer l'image réalisée de l'utopie de l'universel amour des hommes, certainement, il lui faudrait décrire un état atroce et ridicule dont jamais on ne vit l'équivalent sur la terre. Chacun serait harcelé, importuné et désiré, non par un seul homme aimant, comme cela arrive maintenant, mais par des milliers, et même par tout le monde, grâce à une tendance irrésistible que l'on insultera alors, que l'on maudira autant que l'on a fait l'humanité ancienne avec l'égoïsme. Et les poètes de cet état nouveau, si on leur laisse le temps de composer des œuvres, ne rêveront que du passé bienheureux et sans amour, du divin égoïsme, de la solitude qui jadis était encore possible sur la terre de la tranquillité, de l'état d'antipathie, de haine, de mépris, et quels que soient les noms que l'on veuille donner à la famille de la chère animalité où nous vivons. Regarde dans le lointain. Si seules sont appelées morales, ainsi que le veut une définition, les actions que l'on fait à cause du prochain et rien qu'à cause du prochain, il n'y a pas d'action morale. Si seules sont appelées morales, ainsi que le veut une autre définition, les actions faites sous l'influence de la volonté libre, il n'y a encore pas d'action morale. Et qu'est-ce donc que l'on nomme ainsi? Qu'est-ce ceci qui existe donc certainement et veut par conséquent être expliqué? Ce sont les effets de quelques méprises intellectuelles. Et en admettant que l'on se délivra de ces erreurs, que deviendraient les actions morales? Au moyen de ces erreurs, nous avons jusqu'à présent prêté à quelques actions une valeur supérieure à celle qu'elles ont en réalité. Nous les avons séparées des actions égoïstes et des actions non affranchies. Si maintenant nous les adjoignons de nouveau à celles-ci, comme nous devons faire, nous en diminuons certainement la valeur, leur sentiment de valeur. Et cela, au-dessous de la mesure raisonnable, puisque les actions égoïstes et non affranchies ont été évaluées trop bas jusqu'à présent, à cause de cette prétendue différence intime et profonde. Seraient-elles donc dès lors exécutées moins souvent, puisque dès lors on les estime de moindre valeur? Inévitablement. Du moins pour un certain temps, aussi longtemps que la balance du sentiment de valeur se trouve sous la réaction de fautes anciennes. Mais nous calculons que nous rendrons aux hommes le bon courage pour les actions décriées comme égoïstes et que nous en rétablirons ainsi la valeur. Nous leur enlevons la mauvaise conscience. Et puisque jusqu'à présent les actions égoïstes furent les plus fréquentes et qu'elles le seront encore pour toute éternité, nous enlevons à l'image des actions et de la vie leur apparence mauvaise. C'est là un résultat supérieur. Lorsque l'homme ne se considérera plus comme mauvais, il cessera de l'être.